Devenir Premier ministre, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, alors que son parti vient de triompher aux européennes et domine. Hein, les sondages aux législatives, Jordan Bardella appelle les Français à lui offrir une majorité absolue le 7 juillet, sans quoi le président du RN est catégorique. Il n'ira pas à Matignon pour être le collaborateur d'Emmanuel Macron. On l'écoute.
Moi, je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Si nous sommes en situation de majorité relative, comme c'est le cas dans le pays depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, alors le Premier ministre ne peut pas agir. Je ne vais pas vendre aux Français des mesures ou des actions que je ne pourrais pas mener. Je leur dis la vérité. Mmh. Et pour agir, j'ai besoin d'une majorité absolue.
Et donc avec nous pour commenter cette actualité politique, Agnès Evren qui est sénatrice Les Républicains de Paris, Jean-Paul Garot, magistrat et président de la délégation Rassemblement National au Parlement européen, Astrid Panossian-Bouvet, députée Renaissance de Paris, candidate à sa réélection, l'avocat Charles Consigny et bonjour. Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV. Jean-Paul Garot, qu'on comprenne bien ce que dit Jordan Bardella, s'il vous plaît. Si vous arrivez largement en tête dans 3 semaines, mais que vous n'avez pas une majorité absolue, le RN refusera le poste de Premier ministre, vous n'irez pas à Matignon ?
Jordan Bardella s'est expliqué là-dessus. La volonté, bien sûr, dans le cadre d'un moment absolument historique, un moment de vérité par rapport au peuple français, la responsabilité qui est la nôtre est celle du redressement national. Le redressement national, nous ne pourrons le faire que si effectivement nous avons une majorité absolue. Parce qu'une majorité relative, ça continuera à y avoir une sorte de crise politique. Et cela n'est pas possible. Donc Jordan Bardella s'est exprimé, il a indiqué qu'il en était ainsi. Et oui, il nous faut absolument cette majorité absolue. Il faut que nos concitoyens comprennent bien l'enjeu. Et je crois qu'ils le comprennent, ils l'ont déjà compris avec les élections européennes, puisqu'ils sont allés voter, je dirais, en plus grand nombre aux élections européennes. Ils ont bien vu que les élections européennes avaient un lien avec le quotidien des Français. Donc maintenant, il faut continuer sur cette voie. Et je pense pouvoir dire, d'après les ressentiments que j'ai, qu'il peut y avoir un phénomène de ce type, qu'il peut y avoir un phénomène de vague, parce qu'en réalité, les mouvements, et tous les spécialistes ici le savent, les mouvements électoraux...
Ils vont vous le dire dans un instant.
Les mouvements électoraux, je pense, peuvent entraîner des mouvements de cette... amplifier, en fait, un phénomène. Je crois que les gens ont compris que les verrous psychologiques, que tout ce qui tournait autour des cordons sanitaires, tout ce qui tournait autour de la volonté de faire peur par rapport au Rassemblement national, eh bien, est tombé. Et donc, c'est une grande chance pour la France, en réalité.
Agnès Evren, selon vous, est-ce que c'est un coup de bluff, cette menace ?
Non, moi je pense que ce n'est pas très solide ni rassurant, très franchement, de vous entendre, mais ça démontre tout simplement, et les électeurs doivent entendre ça, que le Rassemblement national n'est ni un parti de gouvernement, c'est un parti populiste qui surfe en fait sur les peurs et sur les attentes légitimes des Français, parce que le RN en fait progresse sur les angles morts du macronisme, et que en fait c'est un parti populiste en effet qui ne répond en rien, encore une fois, aux priorités des Français. En fait, c'est la baudruche qui se dégonfle, en quelque sorte. C'est la baudruche qui se dégonfle. Et je dirais qu'en fait, ils démontrent encore une fois qu'ils n'ont ni programme, ni expérience, ni équipe. Et quand ils sont au pied du mur pour gouverner, eh bien, ils détricotent eux-mêmes leur propre programme sans que personne ne leur demande rien,
Selon vous, est-ce que M. Bardella ira oui ou non à Matignon s'il n'a qu'une majorité relative ? Quelle est votre analyse de cette
situation ? Je pense qu'il dira non, parce qu'avec qui va-t-il gouverner ? Il n'a pas d'alliance. On voit bien que ce qu'avait proposé Éric Ciotti était pure escroquerie, hein, j'ose le mot, puisqu'en fait, à part sa voisine de Nice, il n'a pas réussi à embarquer avec lui d'autres députés, alors qu'il en disant qu'il y avait des dizaines de députés. Donc je pense qu'en fait aujourd'hui, oui, finalement, Jordan Bardella a calé parce qu'encore une fois, ça n'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti populiste.
Astrid Panossian-Bouvet, vous savez parfaitement ce que veut dire gouverner sans majorité absolue. Est-ce que vous pouvez comprendre M. Bardella ?
Pour moi, ça m'a l'air de tout sauf d'un leader. On célèbre le 84e anniversaire de l'appel du 18 juin. Vous imaginez le général de Gaulle partant à Londres en fixant ses conditions. Et donc, à la fois l'attitude de M. Bardella, mais aussi les différents renoncements à son programme, ça me fait penser un peu, vous savez, à ces contrats très compliqués où vous avez plein de notes de bas de page sous condition d'eux. Voilà. Et donc, c'est vraiment l'impression générale que ça me donne.
C'est toujours compliqué de faire parler le général de Gaulle. Et en l'occurrence, Jordan Bardella en ce moment, peut-être tente tout simplement ce que j'appelais un coup de bluff en interrogeant Mme Even il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Neumann ?
Alors d'abord, première remarque.
Ça ne lui coûte rien de nous dire ça, en tout cas.
Un leader qui est en campagne pour gagner des élections législatives, c'est la moindre des choses qu'ils disent à ses électeurs, donnez-moi une majorité absolue.
On est d'accord.
Vous l'imaginez en train de venir devant les caméras en disant, une majorité relative me suffira ? Non. En revanche, le fait qu'ils disent, sans majorité absolue, je n'y vais pas, par définition, c'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'il sait qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, il n'aura aucun allié pour constituer une majorité absolue. Il sait que chez Renaissance, à gauche, chez les LR, Éric Ciotti est parti, peut-être une autre députée, mais il sait qu'il n'y aura pas d'alliance. Puis troisième point quand même, et je m'étonne qu'on n'en parle pas, il faudra qu'il vienne devant les Français pour dire « j'ai 250, mais j'ai décidé de ne pas y aller » et expliquer pourquoi. Alors que c'est la situation que vit actuellement Emmanuel Macron depuis 2 ans, pourquoi lui, une fois qu'il est dans cette situation, il dit « Ah non, moi personnellement, je ne fais pas comme Emmanuel Macron, je m'enlève les mains, débrouillez-vous. » Il va falloir qu'il s'explique.
Ah bah en effet, justement Charles Consigny, est-ce que c'est imaginable d'avoir le RN, et ses, je reprends vos chiffres, et ses alliés avec 250 députés qui refuseraient Matignon ? Et comment les Français pourraient-ils le comprendre ou l'entendre ?
Je pense que c'est vraiment un argument de campagne là en l'occurrence. Je crois pas que ce soit quelque chose qui puisse se traduire dans la réalité dans quelques semaines. Je pense que le RN a fait l'expérience déjà de la démobilisation de ses électeurs au moment du vote et qu'ils ne veulent pas revivre cette expérience douloureuse et qu'ils veulent simplement que leurs électeurs se rendent dans les bureaux de vote. Je crois que c'est juste ça en fait, cette espèce d'appel à la majorité absolue. De tout ça ne sort qu'une majorité relative pour le RN, je les vois pas trop refuser de gouverner. Mais bon, tout est possible, on verra. Beaucoup prédisent une crise de régime. Tout ça, c'est une espèce de tambouille, pas inintéressante, mais qui me renvoie un peu à mes cours de droit sur la 3e et 4e...
Non, parce que la tambouille, on va en faire, je vous le dis tout de suite.
Sur les 3e et 4e républiques, la question qui m'intéresse plus, c'est est-ce qu'ils vont vraiment gagner ou pas ? Est-ce qu'ils ont vraiment le vent dans le dos ou pas ? Est-ce que les digues avec l'extrême droite ont vraiment sauté ou pas ? C'est plus ça qui est intéressant.
Pardonnez-moi de faire un tout petit peu de psychologie, je sais qu'il faut s'en méfier, mais pensez-vous qu'il a vraiment envie d'aller à Matignon ?
Je pense, oui.
Moi, je me suis posé la question en voyant ces réactions.
Franchement, je vois pas
comme
comment...
Comme un petit coup de stress, je sais pas, vous voyez, ou de...
Je crois pas. Vous savez, il a l'arrogance... des gens sans expérience, le jeune Bardella. Donc, il est persuadé qu'il peut y arriver parce que, comme il n'a rien vécu de difficile jusqu'ici, il pense que tout est facile. Peut-être qu'il déchantera une fois aux manettes, mais peut-être qu'il aura aussi la chance des députants. On verra.
C'est un aveu de faiblesse, Jean-Paul Garot.
Non, mais c'est assez extraordinaire ce que j'entends ici. J'entends un certain mépris. J'entends des termes comme magouille ou autre. Je peux vous dire simplement que ce qui se passe, c'est un enjeu considérable.
Ah mais ça, tout le monde est d'accord.
Considérable. Vous savez bien que nous avons en face de nous l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, un front dit populaire qui est prêt à faire, disons, des extrémités. Alors là, oui, là, moi, je voudrais bien qu'on commence à avoir un petit peu peur, mais redouter que ces gens-là prennent le
pouvoir. Vous avez quand même le même programme économique.
C'est quand même un risque majeur.
Jean-Paul Garot.
Pourquoi toujours focaliser sur le Rassemblement national qui a prouvé quand même une certaine évolution, qui a un programme, qui a un programme de gouvernement, et je vous rassure,
première nécessité.
Jordan Bardella est tout à fait déterminé à être Premier ministre, tout comme Marine Le Pen est tout à fait déterminée à être président de la République.
Je rassure tout le monde ici aujourd'hui. Pour nos téléspectateurs, et d'ailleurs pour les votants, ça soit quand même très particulier de se dire un groupe qui ferait 250 députés, mais qui n'aurait pas cette majorité absolue, refusant de diriger le pays. Mais que la Matignon, c'est quelque chose...
je comprends très bien, et que la question se pose...
D'une certaine façon, d'inacceptable.
La comprends très bien. Mais Jordan Bardella vous a dit la vérité. Nous sommes dans un contexte effectivement gravissime. Je voulais que je reprenne la France insoumise,
Monsieur Poutou, qui est candidat à Trèves, vous laissez
là
le pouvoir.
où ce héros national, Monsieur Beltrame, est mort face à un djihadiste. Enfin, c'est quand même
là,
très grave.
Mais là, on parle de l'exercice
si
du pouvoir. Donc, en fait, moi, ce qui me surprend,
l'exercice de pouvoir,
c'est qu'il le conditionne. Je peux vous assurer que nous, même si on a la majorité relative, on gouvernerait. Parce qu'on a les équipes, on a l'expérience et on a les alliances. Je pense que Jordan Bardella est assez lucide. Il se rend compte, et il a vu Elisabeth Borne, il a vu Gabriel Attal, il a vu que le pays est ingouvernable. S'il n'arrive pas à faire les accords, il a vu les 49-3, il a vu les blocages. Et c'est compte tenu de cette expérience. Et on voit aussi la situation budgétaire de la France. Évidemment que c'est
que répondez-vous à cela.
Et il se rend bien compte que ce ne sera pas gouvernable s'il n'a pas la majorité absolue. Mais je pense tout simplement que...
Vous décrivez un manque de courage.
Un manque de courage. Vous l'avez parfaitement bien résumé.
Eh bien, c'est une conclusion qui est complètement irréaliste. Voilà, parce que, si vous voulez, on est dans cette période...
Pas d'expérience, pas d'alliance et pas de courage.
Mais qu'avez-vous fait pendant des années?
Ben ça fait 15 ans, malheureusement, qu'on perd.
Vous qui avez été au pouvoir, le spectacle que vous avez donné dernièrement, les Républicains, et c'est pour ça que j'en suis parti, chère Agnès. Voilà.
Et
j'en suis très heureux.
Mais ça marche pas pour autant.
Et je tiens à féliciter Éric Ciotti d'avoir pris, effectivement, cette mesure.
Cette décision.
Qui, d'ailleurs, a été confirmée par la justice, je le dis au passage.
Oui, oui.
Voilà, je le dis quand même au passage.
Le juge au fond a été saisi.
Évidemment. Alors, Laurent Neumann voulait intervenir. Allez-y.
Je ne suis qu'observateur et donc je me contente d'observer ce qui se passe depuis plusieurs jours.
Observons.
La petite phrase de Jordan Bardella s'ajoute à d'autres. La réforme des retraites, on devait la faire. Abrogation, abrogation. Finalement, l'abrogation viendra plus tard. Et quand on interroge vos amis, Monsieur Garot, et qu'on leur dit, mais attendez, abrogation, ça veut dire la fin de l'âge à 64 ans ? Personne n'est capable de répondre parce qu'en réalité, ça ne sera pas le cas. Deuxième sujet, toutes les mesures pour le pouvoir d'achat. On entend cette petite musique depuis quelques jours. Je reprends les mots de Jordan Bardella. Moi, j'observe. Je ne commande pas, là, j'observe. Il dit, on verra bien. On verra.
Je précise que dans notre deuxième dossier d'actualité, nous reviendrons largement sur toutes ces questions.
Et d'ailleurs, il dit tellement, on verra bien. Il dit d'ailleurs, avant de prendre quelques mesures que ce soit, je commencerai par faire un audit des comptes publics.
Bah oui.
Je pense que vous avez le numéro de téléphone et l'adresse de la Cour des comptes.
Ah oui, mais justement, la Cour des comptes a donné déjà, vous le savez très bien, des rapports très intéressants sur la Cour des comptes, dont on n'a jamais tenu.
Les rapports de la Cour des comptes sont utilisés politiquement comme on le veut.
Donc vous savez ce que vous pouvez faire ou pas faire.
Astrid Panossian, vous vouliez intervenir, excusez-moi.
Non, mais là, on est en train de débattre sur la psychologie d'un Bardella, sur le... En fait, il faut peut-être revenir sur l'essentiel, qui est le risque de décrochage durable de la France en cas d'application du programme économique du Rassemblement national, quand bien même il y a des renoncements. Est-ce qu'on peut parler aussi du fait que le programme de la défense nationale, dans le contexte actuellement, qui est quand même inédit en Europe depuis 2 ans, on ne le retrouve plus. Là où on parlait d'une alliance éventuellement avec la Russie, il a disparu du site internet du Rassemblement national.
Toutes ces questions font partie de la deuxième partie de l'émission. Et pour l'instant, je dois, pardonnez-moi, m'interroger sur ce que nous dit Jordan Bardella et son comportement pour l'instant. Je voudrais quand même bien comprendre les choses. Laurent Neumann, Jordan Bardella refuse d'aller à Matignon. Qu'est-ce qui se passe concrètement s'il a ses 250 députés, mais qu'il estime qu'il ne peut pas... gouverner dans de pareilles conditions. Qu'est-ce qui se passe le 8 juillet en cas de refus d'aller à Matignon par Jordan Bardella? C'est quand même une sérieuse question.
D'abord, il doit aller à la télévision et parler aux Français et, je l'ai dit, expliquer pourquoi il prend cette décision, pourquoi il refuse de gouverner sans majorité absolue alors que d'autres l'ont fait avant lui. Premier point. Deuxième point, on est dans une sorte de blocage institutionnel. Il faut trouver une porte de sortie. Deuxième porte de sortie, il y a un deuxième groupe à l'Assemblée qui, réuni, aurait lui aussi une majorité relative mais moins importante. Donc le président de la République, c'est son pouvoir propre, peut aller choisir un Premier ministre dans ce deuxième bloc. C'est parfaitement possible. Deuxième bloc qui aurait les mêmes difficultés, majorité relative, pour gouverner que le premier, celui du RN. Troisième possibilité...
Pardonnez-moi, on passe du bloc RN au bloc France Insoumise, par exemple, enfin Union de la Gauche.
Front Populaire, et on peut très bien aller choisir un Premier ministre dans l'une des autres formations de ce Front Populaire, un socialiste, un écologiste ou quelqu'un d'autre, qui représenterait ce front-là en lui disant « maintenant débrouillez-vous, allez-y, vos camarades ne veulent pas y aller, allez-y vous ». Troisième possibilité, une coalition. une coalition qui irait, si j'ai bien compris, de la gauche social-démocrate aux républicains les plus modérés, en passant par les actuels alliés de la majorité présidentielle. Je vous vois sourire.
Non, parce que j'allais vous dire, oh, c'était chouette la 4ème République.
Je vous vois sourire. Par contre, il y a une hypothèse qui n'existe pas, je préfère le dire. L'idée que le président de la République démissionnerait.
Ça, on a bien
alors,
compris.
Alors, elle n'existe pas, cette hypothèse, pour une raison simple, c'est que le nouveau ne pourrait pas dissoudre.
Oui. Ben oui,
voilà. Donc, le nouveau président se retrouverait pendant 8, 9, 10 mois avec la même majorité, avec la même chambre introuvable.
Et de toute façon, Charles Consigny, le président de la République, a bien précisé qu'il ne démissionnerait pas. Donc il assumerait ce rapport de force quel qu'il soit,
oui,
ou ce rapport de faiblesse d'ailleurs.
Il avait dit aussi qu'il ne dissoudrait pas, et il a fait quand même. Donc bon, moi je pense que Emmanuel Macron a manqué peut-être de clairvoyance en fait dans cet épisode là, et qu'il est un peu perdu. On sent quand même un peu que là la France est un peu un canard sans tête. On verra ce que ça donne, mais je suis pas sûr qu'il ait anticipé les événements tels qu'ils se déroulent là, même si je n'exclus pas non plus que dans son souhait d'imiter beaucoup les autres présidents, il ait envie de sa cohabitation, comme Mitterrand l'a eu, comme Jacques Chirac l'a eu.
Néanmoins, cette impasse avec une France ingouvernable, comment on en sort dans de pareilles circonstances?
Et moi, je ne sais pas, je ne suis pas constitutionnaliste. Vous savez qu'il n'y a plus de conseiller institution justement à l'Élysée depuis quelques mois. C'est peut-être un élément à prendre en compte dans les décisions qui ont été prises ces derniers temps. Moi, je pense, honnêtement, je ne suis pas sûr déjà que ce soit si nécessaire que ça d'avoir un gouvernement et un parlement. Je pense qu'il y a de toute façon trop de lois et très souvent une action politique plus nuisible qu'autre chose. Alors, j'ai observé que la Belgique avait survécu très longtemps sans gouvernement. Et donc, si on peut aussi faire une pause de ce côté-là, ce sera peut-être pas plus mal.
Apprendre à gouverner avec une majorité très relative, trouver des alliances parfois improbables, ce serait nouveau en France. En revanche, certains de nos voisins connaissent parfaitement ces longues tractations entre partis de gouvernement. C'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir David Dunal.
Bonsoir.
Aux Pays-Bas, par exemple, les législatives avaient lieu en novembre dernier et il a fallu près de 6 mois de négociations pour enfin aboutir à un gouvernement. Expliquez-nous ça.
Exactement, c'est le parti de cet homme, Geert Wilders, qui avait remporté les élections en arrivant en tête. Son parti, étiqueté à l'extrême droite, dispose de 37 sièges sur 150. Il n'a donc pas la majorité absolue. Il a dû discuter avec d'autres partis pour se regrouper, former un gouvernement de coalition. Et ça se fera donc notamment avec un parti pro-agriculteur, le Parti libéral, et puis le nouveau parti anti-corruption aux Pays-Bas. On voit donc que ça prend du temps. Ça prend du temps également en Belgique. La coalition qui était au pouvoir depuis 2020 n'a plus de majorité depuis les législatives il y a une semaine en Belgique, ce qui a entraîné la démission du Premier ministre Alexander De Croo. Cette coalition, elle était formée de 7 partis, en allant des socialistes aux libéraux, en passant par les écologistes aux chrétiens-démocrates. Il avait fallu 493 jours pour que l'ancienne coalition émerge en 2020. Les tractations sont donc en cours pour trouver une nouvelle coalition. On va aller maintenant en Italie, aux dernières élections Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. La Lega de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi avaient remporté la majorité et donc formé une coalition qui est toujours au pouvoir. Et il y en a eu beaucoup des coalitions en Italie. Vous allez voir 8 présidents du Conseil des ministres depuis 2010 avec des couleurs politiques très différentes. Ces coalitions, elles sont empreintes d'une grande instabilité, parce qu'il suffit qu'un groupe de la coalition décide de quitter et il n'y a plus de majorité, ce qui fait tomber le gouvernement.
Merci beaucoup David Dunal. Alors Astrid Panossian-Bouvet, vous aviez la possibilité en 2022 de faire une grande coalition avec une majorité parlementaire. Pourquoi ça ne s'est pas fait il y a 2 ans et pourquoi ça ne se ferait pas aujourd'hui d'ailleurs?
Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait.
Donc, ça veut dire que vous y êtes favorable.
J'y étais très largement favorable en 2022. Et les exemples qui sont donnés par votre collègue ici, c'est l'exemple de démocratie parlementaire. Et la France est, avec la Finlande, un des rares systèmes présidentiels en Europe. Donc, les exemples ne sont pas tout à fait similaires.
Non.
Et il y a en plus, dans ces pays-là, une culture du compromis, où le compromis n'est pas vu comme de la compromission. Mais je pense que c'est précisément ce que les Français nous avaient donné en 2022, d'introduire cette logique de compromis et de coalition. Et c'est dommage d'ailleurs de ne pas l'avoir vraiment tenté avant de recourir à cette solution ultime qui est la dissolution. Donc maintenant on y est et j'espère simplement qu'on va pouvoir
construire parce qu'il y a maintenant une situation d'urgence. Peut-être qu'en 2022, il n'y avait pas cette situation d'urgence. Elle est là maintenant, cette situation d'urgence, de pouvoir s'entendre avec des hommes, des femmes de bonne volonté, républicains, démocrates, pro-européens, qui peuvent se donner un petit peu de temps pour se mettre d'accord sur des sujets essentiels que le travail, les services publics, la sécurité et l'autorité, oui, et la trajectoire des finances publiques.
Madame la députée,
je pense que c'est absolument indispensable.
Oui, mais
simplement pour vous dire quelque chose, je suis une des rares députées, sinon la seule, à avoir créé un groupe de travail qui s'appelle Travail en commun, qui regroupait 40 députés. J'avais demandé à un député LR des Vosges et un député PS de Meurthe-et-Moselle de le coprésider avec moi, parce qu'on peut ne pas venir de la même famille, ne pas être dans le débauchage intellectuel.
Est-ce qu'il y avait des RN et des mélenchonistes avec
vous? J'avais souhaité n'avoir aucun mélenchoniste.
Madame Panzer, c'est sans doute que intellectuellement, sur le papier, c'est votre démarche, elle n'est pas absurde. Mais c'est ce que propose Emmanuel Macron
Il est dans le débauchage et on était dans le texte par Brexit. Ce n'est pas la logique de coalition. La logique de coalition, ce sont des partis différents.
On laisse Charles continuer, terminer s'il vous plaît.
Il faut comprendre.
Vous ne connaissez pas la logique de coalition.
Mais pardon de vous dire que votre truc selon lequel on va mettre des gens qui ne sont d'accord sur rien autour d'une table pour le bien du pays, excusez-moi de vous dire que c'est bidon, ça ne marche pas. Et la preuve en est que on a vu ce que ça donnait avec la Macronie, qui est censée être ça, qui est censée être l'auberge espagnole de gens pas d'accord entre eux, mais qui vont se mettre d'accord dans l'intérêt général. Et qu'est-ce que ça donne ? Pardon de le dire, faillite totale sur le régalien, faillite sur la sécurité, faillite sur l'immigration, faillite sur ce que tout le monde appelle pompeusement l'autorité, émeute urbaine, mais incompréhensible par la Macronie, à regarder ça comme si, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes racailles qui nous dévalisent. Bah oui, excusez-nous, ça existe depuis environ 30 ans. Bon. Donc, faillite totale là-dessus, pas de décision réelle. Sur la réduction des dépenses publiques, parce que impossible de mettre les gens d'accord sur ce sur quoi on réduit les dépenses publiques. Résultat, des dépenses publiques qui n'ont jamais été aussi élevées. En France, on est le premier pays du monde en pourcentage
du PIB. Mais on dirait que vous n'avez pas écouté ce que disait le journaliste tout à l'heure en expliquant ce que sont les gouvernements de coalition.
Il faut vous y résoudre. Nous allons revenir au clivage entre des familles politiques.
Pourquoi ça marche dans d'autres pays et chez nous c'est impossible?
Mais parce que Macron, Emmanuel Macron n'a jamais fait les choses.
Merci Charles, je vous écoute.
Par pur cynisme.
J'ai changé de sexe, je suis à la mode.
Par pur cynisme, en fait, Emmanuel Macron a méthodiquement déconstruit toutes les oppositions qui lui faisaient face. Il a liquidé le Parti socialiste, il a essayé de dépecer la droite, il n'y est pas arrivé. Et donc, en fait, à aucun moment, il nous a tendu la main. Il a été dans une duplicité constante où il faisait mine, en fait, de dire on va faire une coalition, je charge Elisabeth Borne de créer une coalition.
Vous auriez aimé une grande coalition en 2022 ?
Eh bien, écoutez, sans doute, il aurait fallu le faire à ce moment-là.
C'est facile à dire a posteriori.
Non, mais attendez, il y a beaucoup de personnalités à droite qui étaient demandeuses de cette coalition. Oui. Sauf qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui le bilan d'Emmanuel Macron, avec 3 000 milliards de dettes, en effet, rien, aucun effort n'a été fait pour réduire en fait les dépenses. On est carrément le bonnet d'âne de tous les pays européens sur le régalien, sur la sécurité, sur l'immigration, sur tous ces sujets-là. À un moment, on s'est dit, on ne veut pas être tributaire du très mauvais bilan d'Emmanuel Macron. Mais si on s'était tous mis autour de la table de façon rationnelle sur une dizaine de sujets, peut-être que ça aurait plus, sauf qu'Emmanuel Macron ne l'a jamais proposé, c'est ça la vérité.
Jean-Paul Garot, pourriez faire des alliances? Pour l'instant, vous ne voulez pas le faire.
Mais le RN n'est pas
faire de la politique, c'est aussi par moments faire des alliances, c'est-à-dire chercher des partenaires.
Non, mais la coalition d'Agnès Evren, je l'entends, mais avec qui? Avec qui vous allez,
non,
avec qui vous allez
la faire? Non, mais on parlait de 2022 vous, avec Emmanuel Macron.
Parce que vous vous rapprochez quand même de M. Macron, vous êtes rapproché. C'était ça, les LR. Les LR étaient divisés, moi j'ai vécu
ça, divisés. Mais nous, on est un parti de gouvernement, monsieur, on est un parti de gouvernement.
Mais vous l'avez montré que les Français en atteignent. Mais non, arrêtez.
Je suis désolée, mais ça fait 30 ans que Marine Le Pen demande à prendre.
On laisse, s'il vous plaît, Jean-Paul Garot prendre la parole.
Non, les slogans et tout, c'est pas de votre autre niveau, Agnès Evren, je vous connais. Non,
faites votre démonstration.
Mais vous le savez bien, il y a des gens qui sont très bien. Il y a des gens. Moi, j'ai
Si vous voulez, propos, c'est qu'il n'y a aucune alliance possible.
Je n'ai en aucune façon changé d'idée et je me retrouve, et de conviction, et je me retrouve naturellement là où je suis. J'ai été magistrat pendant des années. J'ai vu sur le terrain le délitement de l'État, de l'autorité de l'État. Je l'ai vu dans tous les dossiers quasiment que j'ai eus. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut aller vers la politique parce que c'est là qu'on va rétablir, quand on aime la France, qu'on va rétablir les choses. J'ai cru à une évolution de l'UMP, etc., Nicolas Sarkozy. Et puis voilà. Et puis tout ceci, c'est, excusez-moi, casser la figure, parce qu'à l'intérieur des LR, il y avait un certain nombre qui voulaient aller vers le centre, aller vers le pouvoir en place, vers M. Macron, et puis d'autres, non, comme moi, et comme ça, d'autres vrai. Sur le terrain, qui refusent
qui voulaient aller vers l'extrême droite.
Et qui se sont rapprochés, mais c'est pas l'extrême droite. Et qui se sont...
C'est deux qui sont différents.
Mais soyez aussi véhéments avec les ultra-gauches
qui menacent la sécurité de ce pays. Je suis, vous inquiétez pas.
Tant mieux.
Mais la droite, à une époque, c'était effectivement l'union de la droite et du centre, et je pense que c'était mieux que l'union de la droite et de l'extrême droite. Voyez,
mais je regarde
l'histoire, je préfère l'union de la droite et du centre à l'union de la droite et de l'extrême droite.
C'est facile de dire des choses comme ça, ça vous dérange.
C'est facile d'ouvrir des livres d'histoire.
Nous ne sommes pas d'extrême droite, nous ne sommes pas populistes.
Pourtant, le Conseil d'État a jugé.
Laurent Neumann va exploser. Il faut absolument que je lui donne la parole. Laurent, qu'est-ce
qu'il
veut ? Les commentateurs se mettent, mais les Français, ils le savent, de plus en plus.
Il y a une règle quand même, pour danser le tango, il faut être deux. Voilà.
Oui, bah on est
les républicains.
Ah, bah dit comme ça, oui.
Les républicains, en l'occurrence, ne veulent pas aujourd'hui danser le tango avec le Rassemblement national.
Parce que voilà. C'est très clair.
À l'exception d'Éric Ciotti. Et les républicains n'ont pas voulu danser le tango avec Emmanuel Macron.
Et lui non plus.
On a investi plus de 60.
J'aime bien la métaphore du tango. On va jusqu'au bout.
Je termine. C'est faux. On parle souvent de culture démocratique. La culture démocratique, elle provient d'abord du mode de scrutin. Nous sommes dans un mode de scrutin majoritaire à deux tours. Dans tous les exemples qui ont été pris là, on est dans des systèmes proportionnels et par ailleurs dans des systèmes parlementaires. Nous, on a un système un peu mixte. Deuxième chose, ce qui empêche la coalition, le système des coalitions jusqu'à ce jour, il y en aura peut-être demain, on va voir, c'est la radicalisation de notre débat politique. Ah. Comment vous pouvez mettre autour de la même table, a fortiori pour danser à deux, voire à trois, des gens qui se disent autant de choses brutales, qui sont autant en désaccord, pas seulement sur le fond, dans les mots. Si vous regardez ce que les uns ou les autres, même des gens a priori très modérés, ont dit de Macron ou dans la Macronie, ont dit de tel ou tel... Comment vous les remettez ensemble après ? Il y a des choses qui ont été dites qui sont irrécupérables. Tout le monde s'étonne de voir au sein de la coalition... Écoutez,
au Front populaire, ils se sont dit des horreurs pendant toute la campagne électorale. Ils refont une campagne ensemble, donc...
Très bien, mais tout le monde est conscient quand même que c'est une coalition électorale, mais que demain, la même coalition pour gouverner, pardon, ça va être une autre marmelade, ça va être différent.
Je suis heureux de vous entendre sur ce point-là, parce que quand M. Hollande s'allie avec M. Poutou... Non mais, dans la même formation électorale, je trouve
mais
quand même
Garraud,
que c'est, mais c'est une alliance.
Monsieur
je
Garraud,
suis désolé, c'est la
Monsieur
même.
Garraud, faut
oui,
tout dire.
Vous c'est
savez,
la même.
Mais vous savez très bien que Monsieur Poutou, dans l'autre, ne sera pas élu. Donc la question ne se pose
pas. C'est pas une raison. Laurent, excusez-moi, mais c'est pas une raison.
En revanche, au moment où tous ces gens seront élus ou pas, il faudra bien les réunir. Mais si déjà, comme vous le pointez, ça va être difficile de faire travailler en même temps des gens de gauche à l'intérieur d'une coalition électorale, vous imaginez les mêmes gens de gauche avec des amis de d'Agnès Evren, des Républicains, ou avec des amis de M. Attal et de M. Macron. C'est presque inconcevable.
Ça se fait dans d'autres pays.
Mais
ça prend des mois de négociations.
Je viens de vous dire.
Mais ça fonctionne.
C'est la culture démocratique.
Ah oui,
la culture démocratique, d'une part, le mode de scrutin et la radicalisation de notre débat politique rendent les choses extrêmement
difficiles. Vous êtes en train de démontrer qu'il nous faut une majorité absolue. Je vous remercie.
On va écouter Éric Ciotti, si vous le voulez bien, qui est persuadé que ça s'agite en coulisses pour tenter de créer une alliance très large. On l'écoute.
J'entends qu'on prépare aussi en secret une grande coalition avec qui pourrait aller jusqu'à certains de chez nous, jusqu'aux insoumis ou aux communistes.
Vous avez entendu ça où ?
Oui, vous lisez la presse comme moi. Bien sûr, ce n'est pas sur la table. Mais je sais que certains en discutent. Et ça, c'est scandaleux.
Oui, alors c'est...
Il y a une grande coalition secrète.
Pardon. C'est pas dans la presse qu'il a lu ça. C'est un expert de la carte électorale. Il a donc regardé les candidatures. Et il s'est rendu compte, effectivement, que dans le bloc de la majorité présidentielle, on avait renoncé à présenter 62 candidats dans 62 circonscriptions.
Absolument.
Parfois, lorsqu'il y a des candidats LR, parfois fois lorsqu'il y a des candidats qui issus de la social-démocratie, ouais. donc des gens potentiellement avec qui demain on pourrait gouverner ou en tout cas se tenir par la main et proposer peut-être une alternative. Il n'a pas lu ça dans la presse, hein, il a juste regardé les
donc
candidats.
Là, vous évoquez des alliances locales et pas de manœuvres nationales.
Oui, mais après, ces gens seront élus. Et donc, une fois élu, il faudra remercier d'avoir été protégé pour se faire élire. Et donc, c'est ça peut-être le pari de la majorité.
Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit ce que disait Eric Ciotti.
Il semble quand même que l'Élysée ait été un peu... un peu léger à penser, à mon avis, qu'il pouvait donner le pouvoir au RN pendant 3 ans, histoire de les disqualifier et garder la présidence de la République ensuite dans 3 ans.
Vous pensez que c'est le pari de fond du président Macron ?
Je ne suis pas dans... On fait la psychologie de tout le monde, mais je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas. Soit il a vraiment pensé que la gauche serait trop divisée pour représenter une menace sérieuse et que les Français, ne voulant pas du RN, redonneraient une majorité un peu plus large au camp macroniste. Bon, peut-être, c'est très optimiste, mais il faut l'être dans la vie. Ils sont un peu plus... tête brûlée que ça, et ils se disent que, somme toute, au fond, le RN, on s'en fout un peu, on leur donne les clés 3 ans, ils vont vasouiller, ils vont pas réussir à faire ce qu'il faut, et on arrivera, la présidentielle, elle va commencer dès 2026, en réalité.
Un pari sur l'incompétence présumée du RN au pouvoir.
Bien sûr, l'incompétence, l'inexpérience et l'usure. Vous savez, même les gens les plus compétents, vous pouvez leur donner le pouvoir, ils se feront quand même détester par la population. Parce que c'est très difficile de gouverner la France. Donc moi, je crains que ce soit plutôt cette deuxième option qui ait guidé ce choix. Et là où tout peut se mettre à bugger d'une manière assez radicale, c'est effectivement si de tout cela, aucune majorité d'aucune sorte ne se dégage et qu'on se retrouve dans les blocages, encore une fois, qu'on a connus en France et qui a ont amené pas mal de crises, mais tout ça se résoudra avec la prochaine présidentielle qui, à mon avis, je ne donne pas mes pronostics, mais qui devrait, selon moi, aboutir à une espèce de retour général à la raison.
Vous avez compris quand même ce qui se passait dans la tête du président de la République ?
On revient à des questions de psychologie depuis le début. Moi, je ne vais pas épiloguer. Je me suis d'ailleurs exprimée ici sur BFM en disant que je ne comprenais pas cette décision qui consistait
à... Vous avez dit très clairement que vous étiez contre.
Et pour moi, il est clair, et là, je parle en mon nom personnel, Astrid Panossian-Bouvet, que l'après-Macron, pour moi, il a commencé le jour de l'annonce de la dissolution.
D'accord.
Parce qu'on ne joue pas au dé avec la démocratie, avec les institutions et avec la situation politique ainsi.
Donc vous ne vous reconnaissez plus du tout dans une majorité derrière le président
de la
République ?
Je ne me reconnais pas. Ce que je veux maintenant, c'est réparer avec d'autres les dégâts que cette décision a causés. Tout simplement. Je le dis ainsi et je pense qu'il faut qu'on puisse travailler. D'autres pays l'ont fait.
Qui sont les autres ? Je ne sais pas, c'est Edouard Philippe qui doit diriger une autre...
À la fois, c'est tous ceux qui auront été élus un peu malgré le président et qui croient quand même encore aux valeurs de la démocratie, de la République de l'attachement européen.
Je souhaite être dans une coalition
qui regroupe des hommes et des femmes qui partagent les mêmes valeurs et je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord sur une feuille de route, quelques propositions, le travail qui paye, l'école qui transmet les savoirs fondamentaux, les déserts médicaux, la sécurité. Mais ce sont des personnes qui sont des démocrates, des républicains et des pro-européens. Dans une vraie culture, et là je reviens là-dessus, une vraie culture de la coalition qui ne soit pas du débauchage individuel, qui ne soit pas du texte par texte, mais qui soit quelques points clairs qui donnent une feuille de route pour les 3 prochaines années.
Qui vous a empêché de le faire depuis 7 ans ?
Laissez-moi terminer, monsieur.
Mais oui,
une lecture qui est celle d'un président qui est garant des institutions, qui est clé de voûte des institutions, comme le disait De Gaulle, et un chef de gouvernement qui revient à l'esprit de la cinquième qui définit et conduit la politique de la nation.
Agnès Evren, je vous redonne la parole.
Remercier Astrid Panossian pour sa lucidité et sa clairvoyance, parce que c'est vrai que de faire un tel pas de côté et de reconnaître la réalité en fait de la catastrophe que nous sommes en train de vivre est importante. Je reviens sur les accords secrets. Il n'y a pas d'accord secret généraux, je veux dire, entre Renaissance et les Républicains. Moi, j'ai eu pas mal de ces députés qui n'ont pas de candidat Renaissance face à eux. Je leur ai demandé comment les choses s'étaient déroulées. Et ils m'ont dit, écoute, j'ai été le premier surpris. En fait, partout où Renaissance risquait de perdre, ils n'ont pas mis de candidat pour éviter, et c'est limpide en politique en fait.
Pour aider les Républicains.
Mais non, pour faire face au Front de Gauche ou au Rassemblement
National. C'est ça la vraie fausse coalition secrète alors.
En fait, il n'y a pas eu d'accord généraux, donc c'est important de le dire. Et que tout simplement là où ils allaient perdre, ils se sont retirés tout simplement. Voilà. Donc c'est important de le redire.
C'est pas brillant.
Écoutez, on a bien dit qu'aujourd'hui on était face à des extrêmes et que l'objectif c'est de tout faire pour éviter que les extrêmes arrivent au pouvoir. Ouais, et donc le président, dans certaines circonstances, a pris ses responsabilités. Ça ne marchera peut-être pas, mais nous avons tous subi cette dissolution précipitée et totalement inconséquente.
Il faut se donner les moyens d'essayer d'éviter les extrêmes.
On est en train de décrire un aveu d'échec du président de la République, qui n'a pas réussi à rassembler.
Oui, et d'ailleurs.
Depuis une semaine.
Et d'ailleurs, si.
Donc, c'est une forme de pari.
D'ailleurs, si depuis le 9 juin au soir, on cherche toujours à comprendre pourquoi il a pris cette
c'est
décision.
Pas... Je pense que c'est l'hubris.
Non. Mais nous-mêmes, on est en train toujours de se demander s'il n'y a pas une raison cachée, quelque chose qu'on ignorerait.
C'était la victoire inéluctable en 2027 de Marine Le Pen. Il a essayé de faire dérailler le train de la victoire de Le Pen en 2027.
Même cet exemple-là. Même cet argument-là qui consiste à dire le Rassemblement national pouvait prendre le pouvoir dans 3 ans. C'est un danger. Je vais donc lui donner la possibilité de le prendre d'ici 3 semaines. Pardon, mais même un enfant ne raisonnerait pas comme ça. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un autre mode de raisonnement, mais j'avoue que ça m'échappe.
Parce qu'on est en train de discuter tranquillement ici, mais moi je voudrais en tout cas rappeler la très très grande inquiétude de beaucoup de nos concitoyens. La très très grande inquiétude de beaucoup de nos concitoyens. On le sent sur les marchés, sur les porte-à-porte.
Ils sont inquiets de quoi ?
Mais ils sont inquiets de cette bascule potentielle. Alors, monsieur
de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, qu'ils mettent en avant dans tous les sondages, c'est bizarre, non ?
Je parle de ceux qui ne souhaitent pas être coincés entre la LFI et le Rassemblement national.
Et certains nous disent, est-ce que ma pension de retraite va changer ? Enfin, vous rendez compte ?
Donc la peur, c'est de devoir faire un choix entre le RN et LFI.
Alors déjà, je ne vous parle même pas des gens qui se trouvent dans cette circonscription, mais même de se retrouver dans une bascule et un saut dans l'inconnu économique et international et voilà, c'est évident.
Monsieur Calvi, simplement, moi je voudrais dire juste un mot parce que manifestement on ne vit pas dans le même monde. Parce que moi je suis évidemment souvent dehors et je vois beaucoup de gens et je vais vous dire, ce qui se passe fait naître aussi un formidable espoir par rapport à la politique. Enfin, la politique, quelque part, regagne ses titres de noblesse parce que depuis très longtemps, les gens n'y croyaient plus. Ça allait de mal en pis. Et là, il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, les gens sont allés en plus grand nombre voter pour les européennes. Ensuite, d'après les sondages, ils iront certainement voter davantage pour les législatives et peut-être encore davantage pour d'autres élections ensuite. Donc, il se passe...
Et c'est pour ça qu'Éric Ciotti n'arrive pas à trouver assez de gens pour vous rallier. C'est quand même étrange.
Je vais vous répondre tout de suite. Mais tout de suite, nous avons...
Très bien.
Excusez-moi, nous avons investi plus d'une soixantaine de personnes LR.
Combien de députés sortants ?
Combien de députés sortants ? Les députés sortants ne sont plus députés. Ça ne vous a pas échappé depuis la dissolution.
Merci.
C'est drôle comme remarque, mais ça ne suffit pas.
Mais il y a plus de 60. Mais vous avez d'un côté le système qui se préserve. Qui veut se préserver. Mais je connais ça par cœur.
Ils veulent se protéger.
Jean-Paul Garon, vous ne pouvez pas être un candidat anti-système, vous, avec les responsabilités qui ont été les vôtres depuis toujours.
Je suis désolé, je vous dis les choses telles que je les pense. On se connaît bien.
Vous nous faites une crise d'adolescence à passer 60 ans.
J'ai eu quelques responsabilités à l'UMP, j'ai été secrétaire national à la justice, j'ai été rapporteur de nombreuses propositions de loi sur l'interdiction.
On vous annonce garde des Sceaux.
Tous les textes un anti-système, mais avec des anti-systèmes comme ça,
je vous dis simplement, mais d'une façon sereine, vous voyez, je suis quasiment le plus serein ici ce soir.
André Dlock, Jean-Paul
d'une façon totalement sereine.
Oui, parce que vous ne gouvernerez pas.
Prêts à gouverner, qu'il y a un nouvel espoir dans la politique qui est en train de naître, parce qu'enfin, ça va changer.
Si ce n'est que votre candidat, qu'il est prêt à ne pas gouverner.
On va vraiment s'occuper de la France et des Français, parce qu'on n'a pas encore parlé parler, mais on va en parler peut-être après, des priorités de nos concitoyens qui, là, par contre, sont inquiets.
Mais sur et très parce que ça change tous les jours.
Que vous venez, madame, j'ai bien compris ce que vous dites, mais que vous venez depuis 7 ans.